Alors, on va prier et je vous explique la nouvelle thématique de ce mois-ci, en fait, dans les prochaines minutes. Mais prions tout simplement pour débuter notre temps ce matin. Alors, merci Seigneur pour cette occasion que tu nous donnes encore de nous rassembler pour chercher ta face et recevoir, Seigneur, une portion de ta parole. Nous savons, Seigneur, que cette parole est une source d'instruction, mais aussi, Seigneur, un aliment spirituel qui fait du bien à notre âme et à notre esprit. Et dans cette période difficile que nous pouvons traverser, combien, Seigneur, il est réconfortant de savoir que de toute éternité, tu as des paroles pour nous, que de toute éternité, tu connaissais et tu nous préparais, Seigneur, des voies d'échappement et des lieux de secours, des temps, Seigneur, de repos et de répit dans ces périodes difficiles qui sont les nôtres. Alors ce matin, je te demande, Seigneur, de bénir mon frère, de bénir ma sœur et d'ouvrir notre entendement à ta parole. Surprends-nous, bénis-nous, et qu'en toute chose, Seigneur, que toute la gloire, que tout l'honneur, que toute la puissance, la magnificence, la majesté te soient remises dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors, rebonjour à tous, bienvenue parmi nous. Comme je l'écrivais hier et ce matin en préambule à cette publication, à partir d'aujourd'hui, on entame une nouvelle série sur un psaume qu'on a étudié il y a déjà 5 ans. Je me suis assuré de vérifier dans toutes mes archives quand était la dernière fois que je l'avais partagé avec vous. Et donc, c'est un psaume qu'on a étudié il y a 5 ans. C'était juste en plein cœur au départ, en fait, de mon aventure de santé. Donc, ça avait été un psaume qui avait été bénissant pour moi et je crois aussi pour la congrégation. Et bien que depuis le début des bénédictions matinales, je pensais retourner à ce psaume-là, c'est le psaume 91 pour ceux qui se demandent, j'hésitais jusqu'à présent parce que je ne voulais pas faire d'amalgame entre certaines parties qui sont mentionnées concernant la peste, concernant les fléaux et tout ça. Je ne voulais pas faire un lien direct avec la COVID-19, mais comme on est déjà maintenant des professionnels du confinement, des professionnels de la COVID-19, puisqu'on y vit depuis au-delà de 9 mois maintenant. Donc, je trouvais approprié de finir cette année avec ce psaume, parce que c'est un psaume qui est très encourageant, je pense. C'est un psaume qui va nous parler du réconfort, de la consolation, du repos que Dieu nous donne. Et voilà pourquoi je voulais, dans cette période qui est un peu plus difficile, peut-être même plus difficile que la première vague de contagion qu'on a eue il y a déjà 9 mois. Donc, je pensais qu'il était approprié pour notre âme, pour notre esprit, pour notre santé psychique, émotionnelle ou autre, de passer à travers les prochaines semaines, de passer là avec ce psaume 91. Alors, je vous invite à être là à tous les matins, 8h30, pour qu'on puisse étudier. Alors, pour une première fois aujourd'hui, je vais lire le psaume au complet, puis je vais relire le psaume 1, le verset 1, qui nous sert de méditation ce matin. Mais je lis pour vous le psaume 91 dans son entièreté. « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras point atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains. De peur que ton pied ne heurte contre une pierre, tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours, je lui ferai voir mon salut. Et je reprends pour vous donc le verset 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Une dernière fois. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alors que Dieu bénisse sa parole ce matin. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Deux noms qui sont utilisés ici pour Dieu, deux noms que ceux qui étudient régulièrement la parole connaissent. Tout d'abord le titre de Très-Haut, puis le titre de Tout-Puissant. Très-Haut, c'est le terme Elium, E-L-Y-O-W-N, je répète, E-L-Y-O-W-N, Elium. Et pour le Tout-Puissant, El Shaddai, E-L-S-H-A-D-D-A-Y, je répète, E-L-S-H-A-D-D-A-Y. El veut pour le terme El, quand on parle de Elium ou El Shaddai, El représente toujours l'Éternel ou représente toujours Dieu. Et là-dessus, on rajoute donc le Dieu Très-Haut, Elium, et le Dieu Tout-Puissant, El Shaddai. Donc ici, deux appellations qu'on donne de Dieu et deux contextes particuliers. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Celui qui demeure, c'est le terme Yashab, Y-A-S-H-A-B, Y-A-S-H-A-B. J'appelle toujours le nom pour ceux qui prennent des notes. Celui qui demeure sous l'abri, abri Sether, C-E-T-H-E-R, je répète, C-E-T-H-E-R. Donc celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, Yashab, Sether, Elium. Yashab veut dire habiter, veut dire se marier, donc se lier à quelqu'un, et veut dire s'établir. Et la chose qui est importante ici de savoir, c'est que demeurer sous l'abri du Très-Haut est une décision que nous faisons, que nous prenons plutôt, de nous y établir. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, c'est l'image, on va dire, ou c'est le dessin d'un autre terme qu'on utilise régulièrement, qui se dit en français « invoquer » ou le terme « kara » en hébreu. Je ne vous épelle pas parce que ce n'est pas le terme qu'on étudie aujourd'hui, mais « invoquer » veut dire se placer sous la tutelle de quelqu'un, se placer sous le parapluie, sous le chapeau, sous la direction de quelqu'un ou sous la protection de quelqu'un. Donc quand on dit « j'invoque l'Éternel » ou « j'invoque Dieu », je me place sous la protection de Dieu. Et ici, c'est l'image qui va nous revenir régulièrement dans ce psaume. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut demeure sous l'ombre du Tout-Puissant. C'est comme ces poussins qui sont sous les ailes de la poule. Donc, on a toujours cette image récurrente de se placer sous la protection de Dieu. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit premièrement que Dieu est donc plus élevé que nous, que nous ne parlons pas à Dieu d'égal à égal, mais que nous nous tournons vers Dieu, sachant qu'il est effectivement le Très-Haut, celui qui est le plus élevé, et que nous sommes minuscules à ses pieds. Mais si minuscules et si infimes sommes-nous, cela ne veut pas dire que nous ne sommes pas pour autant dans l'intérêt de Dieu, que nous ne sommes pas pour autant aimés profondément par Dieu. En fait, c'est comme si lui, le Dieu si grand, a un amour tout aussi grand que lui pour des choses minuscules, infimes, comme toi et moi. Donc celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, c'est une décision que nous prenons de nous placer sous la protection de Dieu et de ne pas chercher la protection autre que Dieu. Pourquoi? Parce que nous savons en partant que la toute protection, que la parfaite protection ne peut se trouver qu'auprès de celui qui domine l'univers tout entier, donc notre Seigneur. Trois points ou quatre points importants pour cette première phrase, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Qu'est-ce que ça nous dit tout d'abord? Abri veut nous dire un refuge et un lieu secret. Ça veut donc dire que Dieu, parce qu'on parle de temps qui sont difficiles, Dieu pourvoit des refuges face à la tempête. C'est particulièrement sécurisant, réconfortant de confronter la situation actuelle en sachant que notre Dieu nous pourvoit, que notre Dieu pourvoit à son peuple, à ses enfants, des lieux de refuge, des lieux de réconfort. Je peux m'approcher de lui en sachant que je vais trouver le calme et le repos même au cœur de la tempête. Cette image des refuges est un peu ce qu'on trouvait dans l'Ancien Testament. Lorsque quelqu'un était condamné pour une faute, il y avait ce qu'on appelait des villes-refuges en Israël. Et la personne qui avait été trouvée fautive d'un crime pouvait courir autant qu'il en avait les forces pour se rendre dans certaines villes qui étaient établies à distance régulière pour être sauf dans ces villes. C'était des villes qu'on appelait des villes-refuges. Et Dieu pourvoit pour nous aussi, auprès de sa personne, ce type de refuge. Pour nous qui étions pécheurs, rappelons-nous, pour nous qui étions des gens iniques, souillés par nos iniquités et nos méfaits, Dieu nous permet de trouver refuge, repos, restauration et salut auprès de lui. Donc, premier point, Dieu pourvoit des refuges face à la tempête. Alors, ne craignons pas ce qui se passe actuellement. Ne craignons pas les circonstances qui sont nôtres actuellement. Cherchons auprès de Dieu le refuge qu'il peut être et qu'il veut être pour nous au cœur de la tempête que nous pouvons affronter. Deuxième notion importante, c'est que notre Seigneur pourvoit des lieux secrets. Mais des lieux secrets, ça veut donc dire qu'ils sont cachés. Dans la notion même de secret, c'est qu'il y a une question de cacher. Mais Dieu, il lui plaît de nous révéler à nous, ses enfants, ces lieux secrets dans lesquels nous pouvons effectivement nous réfugier. Ça veut donc dire que Dieu n'est pas ingrat. En dépit de nos manquements, de nos péchés, en dépit de nos déraillements réguliers, en dépit de nos culbutes et de nos chutes régulières, malgré tout, Dieu se plaît à révéler à ses enfants ces endroits où, vers lesquels nous pouvons courir et trouver en lui des refuges. Ça veut donc dire que Dieu t'aime assez pour ne pas te laisser vagabonder dans l'aventure, te laisser vagabonder à droite et à gauche sans trouver cet endroit où tu peux effectivement te reposer. Jésus va dire à un scribe, et j'en ai parlé il y a quelques semaines, Jésus va dire à un scribe qui veut le suivre et qui veut marcher avec lui, « Le Fils de l'homme n'a pas même où poser sa tête pour se reposer, mais... » Je m'excuse. Mais notre Seigneur, si lui n'a pas un endroit pour poser sa tête, il veut s'assurer que nous, ses enfants, puissions effectivement trouver un endroit où nous reposer. Certains passent par des temps de stress avec le travail, certains c'est avec la famille, certains c'est avec la santé, certains c'est des deuils. On sait que la semaine dernière, on priait pour le frère Gilles, qui était proche de notre bien-aimé Claude Pelletier qui est décédé. On priait pour lui que le Seigneur puisse le réconforter et le soutenir. Et il me disait justement hier combien il remerciait pour les prières qui étaient élevées à son égard, que ça lui faisait du bien. Donc effectivement, Dieu trouve ces endroits Dieu trouve ses moyens de nous apporter le secours et dans ces lieux secrets. Donc ces lieux secrets, c'est des endroits où je peux aller me réfugier d'une part, mais aussi où je peux aller me cacher. Cette idée qu'on est poursuivi par des ennemis, qu'on est poursuivi par des armées, mais on peut se réfugier quelque part à l'abri du regard des ennemis, quelque part à l'abri de la tempête, et celle-ci peut souffler sur nous, on ne sent rien et elle ne peut nous affecter. Donc Dieu pourvoit des refuges et Dieu veut que même ces lieux secrets nous soient révélés à nous. Comme je disais tout à l'heure, et ça c'est notre troisième point, par contre, ces lieux-là, on y accède si on décide de s'y établir. Et ce n'est pas un endroit où je vais tout simplement pour une petite période, et puis je quitte, et puis je reviens, et puis je quitte. L'idée ici d'habiter, l'idée de s'établir, et l'idée même de se marier qu'on a dans le terme Yashab, celui qui demeure, il y a cette question de habiter ad vitam aeternam, trouver dans la présence de Dieu, trouver auprès du Seigneur cet endroit où j'établis ma vie, cet endroit où je décide de demeurer pour toujours. Il serait illogique une fois qu'on a goûté la présence de Dieu, une fois qu'on a goûté le réconfort de Dieu, une fois qu'on a goûté le repos que Dieu peut donner à notre âme, il serait effectivement insensé de quitter pour se défaire de cette protection, pour quitter pour ne plus vivre sous le chapeau et sous l'ombrelle de Dieu et essayer d'affronter les tempêtes de la vie par soi tout seul. Notre seul réconfort, notre seule consolation, notre seule source de rétablissement, de repos et de répit, comme on le répète depuis tout à l'heure, se trouve uniquement auprès du Seigneur. Et quand on l'a effectivement connu, lorsqu'on l'a effectivement expérimenté, on ne veut pas aller ailleurs. Un peu pourquoi les disciples, lorsque Jésus va leur dire, à la vue de ceux qui l'avaient abandonné et quitté, il demande à ses 12, mais est-ce que vous ne voulez pas aussi partir et aller comme les autres? Et Pierre va lui dire, Seigneur, nous avons connu, Seigneur, nous avons cru que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Parce que nous avons cru tout d'abord et parce que nous avons connu, donc nous avons expérimenté qui tu es et ce que tu procures et ce que tu es appelé à faire et ce que tu promets de faire pour nous. Quand on a vraiment compris cela et qu'on a vraiment expérimenté tout cela pour soi, on ne veut pas aller ailleurs et on n'est pas prêt à quitter notre Seigneur. Donc, premièrement, un refuge, deuxièmement, un lieu secret qu'il révèle à ses enfants. Il nous dit comment y aller et la parole de Dieu nous montre comment approcher Dieu et comment trouver notre refuge auprès de lui. Troisièmement, c'est un lieu où on décide de s'établir, donc établir demeure. C'est pas un chalet de week-end dans lequel on va à une maison de campagne, une maison secondaire à laquelle on va une fois par semaine pour passer 24 heures et on revient après ça à la ville. Non, non, c'est un endroit où je vais, je m'établis, j'y vais, je grandis, j'y vis ad vitam éternel. Quatrième point sur celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Ce qui est fantastique, c'est que là, on nous dit l'abri du Très-Haut. Ça veut donc dire que le Très-Haut, notre Dieu qui est élevé, a décidé d'établir ses abris. Dieu a en fait tous les pouvoirs d'ériger et de pourvoir de tels refuges pour toi. Pourquoi? Parce qu'il est le Très-Haut. Certains veulent dire que non, tu ne mérites pas une chose, et ils ont tout à fait raison. Tu ne pourras jamais mériter la grâce, la bénédiction et la protection de Dieu. Tu ne pourras jamais être assez saint pour dire j'ai fait ce que j'avais à faire pour mériter ce que Dieu me doit. Dieu ne te doit rien, Dieu ne me doit rien, et je ne pourrai jamais mériter ce qu'il me donne, tout ce que nous recevons, ce n'est qu'en raison de sa grâce, mais Dieu a le droit légal de pourvoir ses abris, a le droit légal de pourvoir ce repos, a le droit légal de pourvoir ses lieux secrets et ses lieux de répit. Pourquoi? Parce qu'il est le Très-Haut. Donc notre Dieu utilise ses droits, notre Dieu utilise tout son pouvoir pour faire en sorte que sur ton chemin, il y ait effectivement ces endroits où tu te parques, où tu t'établis et où tu te reposes dans la présence de notre Dieu. Ce sont ces verts pâturages que David va nous mentionner aussi dans le psaume 23. Des endroits que le berger connaît et des endroits vers lesquels le berger nous conduit. Vous savez que lorsqu'il y a plusieurs troupeaux sur un même flanc de montagne, ils se précipitent avec leurs troupeaux les uns après les autres en essayant de trouver le bon pâturage pour leurs brebis avant que le compétiteur ou que l'autre berger ne puisse y arriver. Et chacun d'eux, lorsqu'il trouve une nouvelle prairie, lorsqu'il trouve un nouveau pâturage qui n'était pas connu, ils le gardent secret. Pourquoi? Parce qu'ils veulent que leurs brebis y parviennent à la saison prochaine avant tous les autres. Notre Dieu fait un peu la même chose avec nous en gardant ces endroits secrets pour que toi et moi puissions effectivement connaître la joie du lieu secret, la joie du lieu de repos, la joie de l'abri que Dieu pourvoit afin que ton âme, que ton esprit, que ta pensée vienne pour un moment effectivement être dans le tout repos et dans la paix profonde que procure seul notre Dieu. Il nous dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Ça, c'est une autre image qui est intéressante. Lorsque tu décides et lorsque tu prends acte de l'abri que Dieu t'a donné et que tu t'y réfugies, la Bible nous dit que non seulement il pourvoit donc à cet endroit où tu peux t'abriter, cet endroit où tu peux te reposer, mais la Bible nous dit qu'il repose aussi, que ce jour-là, tu reposes aussi à l'ombre du Tout-Puissant. Donc, à côté de ce lieu secret, à côté de cet abri, se tient Dieu, Dieu qui est tout élevé, Dieu qui est le Très-Haut, et il fait ombrage à cet endroit pour que tu puisses effectivement profiter de toute la quiétude de l'endroit. Il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Trois mots donc. On a déjà le Tout-Puissant qu'on a vu tout à l'heure, El Shaddai. On a aussi repose à l'ombre, donc reposer, le terme Loum, L-U-W-M, L-U-W-M, et l'ombre, le Tsel, T-S-E-L, T-S-E-L. Pour ceux qui se demandent c'est dans quelle langue, bien entendu l'Ancien Testament, dans lequel fait partie le livre des psaumes et le texte que nous apprenons durant ce mois-ci. Donc c'est en hébreu, le Nouveau Testament étant écrit toutefois en grec essentiellement. Donc celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, lorsque tu es dans cet abri, tu reposes aussi à l'ombre du Tout-Puissant. L'ombre du Tout-Puissant, c'est, le reposer plutôt, c'est le terme loum qu'on a vu tout à l'heure, ce qui veut dire loger, qui veut dire s'arrêter, qui veut dire passer la nuit. Et j'aime cette image de passer la nuit. Très souvent, la terreur s'empare de nous la nuit. En général, que ce soit des enfants, voire même certains adultes ne peuvent pas dormir la lumière éteinte. Ça leur prend une source de lumière parce qu'ils craignent la nuit. Et ça, il n'y a pas d'histoire de rire ou quoi que ce soit. Chacun est fait comme il est fait. Et certaines personnes ont donc besoin de lumière. D'autres vont vouloir avoir de la musique ou la radio qui se fait entendre tout au long de la nuit. J'ai déjà visité quelqu'un aux États-Unis et pendant toute la nuit, il y avait la chaîne radio qui était allumée à tue-tête. Elle disait « Ouais, mais c'est des chants chrétiens ». Je vous dis que les trois jours qu'on a passés chez elle, c'était difficile pour se reposer. Mais il y a des gens qui ont besoin de cette ambiance pour être dans le repos. Ici, le roi David, le psalmiste, nous fait dire que si nous sommes effectivement si nous demeurons effectivement dans l'abri de Dieu, nous n'avons plus à avoir peur de la nuit. Même la nuit la plus terrifiante, la plus noire qui soit, qui est entrecoupée par des éclairs, par le tonnerre, par une pluie torrentielle, même la nuit la plus terrifiante ne saurait nous empêcher de nous reposer. Pourquoi? Parce que notre Dieu est à côté de nous. Cette même image de David qui dit « Lorsque je marche dans l'ombre de la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? » Pourquoi? Parce que tu es avec moi. Donc la présence de Dieu nous rassure, la présence de Dieu nous apaise. Voilà pourquoi très régulièrement, et assurément je le ferai tout à l'heure, je prie très régulièrement pour les gens en disant « Seigneur, permets-leur d'expérimenter, de sentir de façon tangible et palpable ta présence, une présence qui effectivement nous rassure et nous apaise. » Donc, non seulement je suis dans cet endroit que Dieu a préparé pour moi, pour me reposer, pour être à l'abri, mais la Bible me dit aussi que cet abri-là, Dieu campe à côté de cet abri-là pour s'assurer que rien ne vienne me perturber dans ce temps de repos où rien ne puisse venir m'empêcher de me reposer. Donc je prie effectivement que tu puisses expérimenter cela, Dieu qui campe à tes côtés et tu peux dormir en paix parce que il est présent près de toi. La deuxième notion, c'est que non seulement la nuit terrifiante ne peut pas te perturber, mais c'est Dieu lui-même qui assure notre garde et notre protection. Il n'est pas là en disant « je vais envoyer mes anges, je vais envoyer telle ou telle personne, puis ils vont faire le boulot ». Non, la Bible nous dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, celui qui demeure sous le toit du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant parce que c'est lui-même qui assure ta protection. Ça veut dire que ton garde du corps, dans tous les jours, ton bodyguard, comme on dit chez les anglo-saxons, ton bodyguard, c'est l'Éternel Tout-Puissant, l'Éternel des armées, c'est Elyon, le Très-Haut, ou El Shaddai, le Très-Puissant, le Tout-Puissant. C'est lui qui assure ta protection. Est-ce que c'est pas merveilleux? Et cette protection, en septième point, elle est parfaite, elle est adéquate. Pourquoi? Parce qu'il est non seulement le plus puissant, mais il est le tout-puissant. Le tout-puissant veut dire qu'il n'y a pas de faille dans la puissance qui sort de lui. Il n'y a pas de manquement dans cette puissance-là. Ça veut donc dire qu'il a toute la puissance nécessaire pour faire exactement ce qu'il doit faire et le faire de façon parfaite. Non seulement Dieu pourvoit un endroit pour te reposer, non seulement il assure lui-même ta protection et ta surveillance, mais de surcroît, ce qu'il y met pour te surveiller et pour te protéger et te garder au calme et au repos, c'est sa toute et parfaite puissance. Est-ce que ce n'est pas merveilleux pour toi et pour moi? Alors, je pense que dans un temps comme on le vit actuellement, plusieurs sont stressés avec l'emploi, avec la santé, avec l'avenir, puisque tout est incertain avec cette histoire de pandémie. Plusieurs sont stressés à savoir, mais je ne pourrais pas me reposer à la fin de l'année et voir mes enfants, mes petits-enfants, mes parents, mes amis. Va te reposer avec Jésus et tu vas te rendre compte que tu ne veux être nulle part d'autre que sous ses ailes, que sous la protection du Très-Haut, que sous l'abri du Très-Haut et sous le repos et l'ombre du Tout-Puissant. Donc, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? On a vu premièrement que Dieu pourvoit des refuges face à la tempête. On a vu deuxièmement qu'il y a des lieux secrets pour ce refuge, que ces lieux ne sont pas connus pour tous, mais qu'ils sont révélés à ses enfants, donc à toi et à moi. Il me permet d'accéder à sa présence pour être en repos. Des lieux où on décide de s'établir. C'est toutefois une décision pour toi et une décision pour moi. Quatrième point, que Dieu a tous les droits, tout le pouvoir pour ériger ces lieux de refuge, ces lieux d'abri. Pourquoi? parce qu'il est celui qui est en toute autorité, étant Elium, celui qui est plus élevé que tous ceux qui sont élevés. En cinquième point, même la nuit la plus terrifiante ne saurait t'empêcher de te reposer parce que il est là à veiller pour toi. On nous dit l'ombre de la nuit. Il repose à l'ombre du Tout-Puissant, donc on y passe la nuit. Est-ce que ça fait quelque temps que tu n'as pas eu une nuit paisible? Le Seigneur est capable de te l'accorder et je vais justement prier pour cela tout à l'heure. Sixième point, Dieu nous assure lui-même sa protection et sa garde à nos côtés. Et cette protection, en septième point, est parfaite car il est le Tout-Puissant, parce qu'il est ce qu'il dit qu'il est, celui qui veille et qui ne sommeille pas lorsqu'il garde Israël. Alors c'était, je pense, une bonne façon de commencer cette nouvelle série d'enseignements. Et comme je vous dis, ce psaume est un psaume réconfortant. Je pense que Dieu va faire du bien à notre âme, à notre esprit, à nos pensées, à notre humeur pendant ce mois-ci. 4 semaines qui vont être consacrées au psaume 91 pour qu'on puisse effectivement terminer cette année dans l'abri du Très-Haut et qu'on puisse reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Alors permettez-moi de prier pour vous ce matin. Seigneur, nous te rendons grâce parce qu'effectivement nous comprenons que tu veilles sur nous. Tu veilles tellement sur nous, Seigneur, que tu prépares des lieux particuliers dans lesquels on peut venir se reposer, dans lesquels on peut se réfugier lorsque la tempête vient, dans lesquels, Seigneur, lorsque la journée de travail est finie, on peut effectivement venir se coucher et reposer en paix. Pourquoi? Parce que c'est un abri que toi-même tu bâtis pour nous. Parce que c'est un abri que toi-même tu as consacré pour nous. Tu l'as préparé et adapté exactement à ce que nous avons besoin. Alors, Seigneur, je n'ai aucune crainte pour ma sœur et mon frère qu'ils auront eux aussi cet endroit où ils peuvent se reposer, cet endroit, Seigneur, où ils peuvent effectivement expérimenter le calme et la paix. Seigneur, je te rends grâce aussi parce que non seulement tu donnes cet endroit où on peut se reposer, mais tu t'assures, Seigneur, de veiller sur nous. À l'instar de David qui n'avait pas peur lorsqu'il traversait la vallée de l'ombre de la mort parce que tu étais avec lui. À l'instar de David qui n'a pas eu peur d'affronter Goliath parce que tu marchais avec lui. Nous savons, Seigneur, que tu marches avec nous. Nous savons, Seigneur, que tu veilles sur nous. Et nous savons, Seigneur, que c'est toi qui gardes l'œil ouvert lorsque nous nous assoupissons. Alors je prie, Seigneur, pour ma sœur et mon frère. Premièrement, Seigneur, je prie que tu leur permettes d'expérimenter ta présence comme jamais auparavant. Une présence, Seigneur, qui rassure. Une présence qui apporte la paix. Une présence, Seigneur, qui calme, même en plein cœur de la tempête. Une présence qui apporte cette paix dont ta parole nous dit qu'elle dépasse l'entendement. Seigneur, pour l'avoir moi-même expérimenté dans les moments les plus difficiles, les plus sombres de mon existence, je sais, Seigneur, combien cette paix est bienfaitrice. Alors je prie pour mon frère et ma sœur qu'ils puissent effectivement expérimenter, comme jamais auparavant, ta présence et ta paix. Et je prie de façon spécifique pour ceux, Seigneur, qui auraient peut-être des troubles de sommeil, qui auraient peut-être, Seigneur, des pensées sombres le soir, des terreurs qui s'emparent d'eux le soir. Je prie, Seigneur, que la paix inonde leur corps, leur âme, leur esprit, et que tu leur accordes, Seigneur, un sommeil profond et un sommeil réparateur. Et je prie, Seigneur, qu'il y ait une distance ou une distanciation ou une distinction plutôt ferme entre les nuits précédentes et les prochaines nuits, afin qu'ils puissent effectivement expérimenter ce repos qui vient de toi et qu'ils puissent en témoigner. Seigneur, je prie qu'effectivement on puisse entendre ces témoignages, être verbalisés du repos, de la paix, du réconfort, du soutien qui a été trouvé en toi. J'appelle ta bénédiction sur mon frère et sur ma sœur. Je confie cette journée entre tes mains, que tu puisses nous guider, nous diriger, qu'en toute chose que toute la gloire te revienne. Nous t'avons prié en ton nom, Jésus. Amen. Alors permettez-moi de saluer quelques personnes qui se sont jointes à nous depuis tout à l'heure. Juste faire défiler un peu. Bonjour à Didier. Bonjour à Ramon et à Evelyne. Bonjour à Rachel, avec Mona, Ocilia, Chantal, Caridad, possiblement. Bonjour à Lucie. Bonjour à Argelia. Bonjour à la sœur Teresa. Bonjour à Natacha, Indiren et aux filles. Bonjour à Immacula. Bonjour à Luc Poirier. Bonjour à Astrid. Bonjour à Diane. Ça fait longtemps que je ne t'avais pas vue. Content de t'avoir avec nous, Diane. Bonjour Tina. Bonjour Christophe. Dieu vous bénisse. Bonjour aux enfants, bien entendu. Qui d'autre? Bonjour à Andrés et Samantha. Que Dieu vous bénisse tous deux. Alors voilà, on vous rappelle tout simplement que ça, on vient de démarrer un psaume pour l'ensemble du mois de décembre. On va terminer, je crois, même le 31 décembre avec notre dernière bénédiction matinale. Tout ce mois-ci, on étudie donc le psaume 91. On vous rappelle les rendez-vous, c'est 8h30 chaque matin. On est toujours là un peu en avance pour vous permettre de vous saluer et de prendre des nouvelles les uns des autres. Et dernière petite chose, rendez-vous ce soir avec le pasteur André pour le cours biblique sur le livre des Actes, un livre important sur l'histoire du démarrage de l'Église, et voir combien nos frères et nos sœurs ont connu des moments aussi défiants, aussi challengeants que nous, aussi demandants que nous, et comment ils ont fait face à ces différents défis, et comment ils ont relevé la tête et l'échine pour concourir et courir justement devant notre Dieu. Donc, soyons là avec le pasteur André ce soir à 19h sur la plateforme Facebook, bien entendu. Ça se trouve aussi sur Zoom le lundi soir. Ceux qui ont envoyé leurs coordonnées à l'église, vous recevez par courriel la note qui vous indique à chaque lundi où vous branchez. Pour les autres, simplement écrire à secrétariat EAJC, secrétariat EAJC en un seul mot, pas d'accent, à commercial@gmail.com. Vous dites, voici mes coordonnées. Vous donnez votre numéro de téléphone, vous donnez votre courriel, votre adresse courriel, ça c'est très important. Et on vous envoie donc un message pour vous dire comment vous connecter sur Zoom, si vous voulez vous connecter via la plateforme Zoom. Sinon, comme j'ai mentionné, ce soir c'est aussi diffusé sur la plateforme Facebook comme ce matin. Alors sur ce, passez une bonne journée. Que Dieu soit avec vous. Demeurez sous l'abri du Très-Haut et reposez à l'ombre du Tout-Puissant. Sachez que Dieu est avec vous. Bonne journée à tous, au revoir.